les podcasts de Radio Vatican.
Nous ne pardonnons pas. C'est le slogan qui a rassemblé samedi 16 septembre 2017 plus d'un millier de personnes dans les rues de Tunis. Ils manifestaient ainsi leur opposition à une loi d'amnistie de fonctionnaires impliqués dans des affaires de corruption sous la dictature de Ben Ali. Cette loi, dite de réconciliation, a été votée par la coalition au pouvoir dont le parti présidentiel Nida Tounes et les islamistes d'Ennahda. Le texte, revu pour n'amnistier que les exécutants n'ayant pas touché de pot de vin, doit permettre, selon ses défenseurs, de libérer les énergies de l'administration. Mais pour ses opposants, la loi encourage l'impunité dans un pays où la corruption est endémique. Dans un contexte marqué par l'entrée récente au gouvernement d'anciens ministres de Ben Ali, elle serait également un nouveau signe de clémence envers les criminels de la dictature. Kamel Labidi, président de l'association Vigilance pour la démocratie et l'État civique, déplore que les dirigeants politiques se substituent à la justice.
Je suis inquiet parce que dans tous les pays qui se sont débarrassés de régimes autoritaires, il y a eu un processus pratiquement de réconciliation basé sur une justice indépendante, sur pratiquement des commissions également de réconciliation indépendante. Personnellement, je ne fais pas beaucoup de confiance à la classe politique au pouvoir qui ne semble pas se soucier beaucoup pratiquement de la marche de la Tunisie vers la démocratie et vers pratiquement une solution idéale pour la question de l'impunité sous Ben Ali.
Le gouvernement donc explique que seuls les exécutants seront amnistiés, donc ceux qui ont appliqué des décisions sans toucher de pot de vin. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ?
Le gouvernement peut dire ce qu'il veut. Moi, je fais beaucoup plus confiance à une justice indépendante, à des commissions indépendantes. Et la loi sur la réconciliation administrative, c'est le fruit d'un entente, d'un compromis entre deux partis politiques qui n'ont jamais brillé dans le passé par leur pratiquement attachement à la justice, à la démocratie. Et donc, c'est ce que je peux dire.
Pourquoi proposer et voter cette loi ? Quel est selon vous l'objectif de la coalition au pouvoir ?
Je crois que leur leader cherche beaucoup plus à conserver le pouvoir qu'à enraciner la démocratie dans le pays. Quand on voit ce qui se passe, il y a des signes de plus en plus inquiétants. C'est-à-dire que rien n'a été fait pour résoudre les problèmes sociaux et économiques qui ont amené les Tunisiens à se soulever contre Ben Ali. Je voudrais pratiquement parler de l'expulsion d'un chercheur marocain, le cousin du roi du Maroc, qui a été expulsé, Manu Militari, à cause de ses positions critiques des régimes autoritaires dans le monde arabe. Il y a également d'autres signes. On a vu des tentatives de restreindre certaines libertés pratiquement garanties par des textes de loi qui ont été votés en 2011, au lendemain de la chute de Ben Ali.
Lors du dernier remaniement, plusieurs anciens ministres de Ben Ali ont rejoint le gouvernement. Quel est le message envoyé ?
Ça ne rassure pas quand on voit deux ministres refaire surface. Le message que le Tunisien perçoit, c'est que c'est les dirigeants des deux principaux partis de nommer, de désigner des ministres qui sont connus pour leur obéissance, soumission, et je crois que c'est faire en quelque sorte affront à des Tunisiens dans la compétence en matière d'éducation et des affaires financières est établie. Pourquoi faire appel à des ministres qui ont été des instruments entre les mains d'un dictateur ?
Et comment réagit la population ?
Il n'y a pas eu pratiquement de sondage, mais il y a, disons, du mécontentement. Ce qui accroît un peu le mécontentement dans le pays, c'est le fait que la situation économique et sociale est en train de se détériorer. L'école publique, les hôpitaux publics, les transports publics n'ont jamais été aussi délabrés depuis l'indépendance du pays. Donc, et le chômage est pratiquement atteint son paroxysme parmi les diplômés. Donc il y a pratiquement une vague de mécontentement dans le pays. Ceci ne veut pas dire que la majorité des mécontents font confiance aux partis d'opposition. Une opposition très, très faible, très morcelée. Et, c'est-à-dire il y a une situation qui n'incite pas à l'optimisme et la confiance des Tunisiens dans les institutions politiques, dans le gouvernement, est en train de baisser.
Est-ce que ça ne constitue pas un risque pour la transition démocratique, pour le maintien de la démocratie ?
Oui, c'est-à-dire ce qui qui a sauvé, ce qui continue à sauver la Tunisie, c'est une partie de la société civile. La société civile a toujours été sur la première ligne pour résister, pour... Lorsqu'en 2013, le pays était au bord de la crise, il y a eu pratiquement des pressions de la société civile sur les différentes factions politiques. Et la Tunisie a su préserver la marche vers la démocratie que malheureusement d'autres pays arabes n'ont pas réussi à préserver. Je crois que pratiquement que la vigilance est là, c'est-à-dire ce qui incite également à l'optimisme, c'est que les composants de la société civile ont tendance à travailler de plus en plus ensemble pour résister. C'est-à-dire ceci n'exclut pas le fait que la marche de la Tunisie pourrait être entravée également par des pressions extérieures. C'est-à-dire que même les pays arabes qui offraient plus de marge en matière de liberté d'expression, liberté de la presse et liberté d'association que la Tunisie, je parle du Maroc, de l'Égypte, sont en train de faire machine arrière et de restreindre les libertés fondamentales. Ajouter à cela le fait que des pays du Golfe et à leur tête l'Arabie Saoudite semblent déterminés à entraver tout effort en matière de démocratisation authentique dans la région.
Là, on parle de ce qui ne va pas. D'un autre côté, il y a quand même certaines choses positives. On a parlé depuis peu des femmes qui ont le droit d'épouser des non-musulmans désormais. Il va y avoir quand même des élections municipales en décembre, des élections législatives et présidentielles en 2019. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette impression un petit peu d'un grand écart entre une vraie vitalité démocratique et puis de l'autre côté, des tentations de retour vers le passé ou d'autoritarisme un petit peu?
Personne ne nie pratiquement les avancées démocratiques. Les Tunisiens n'ont jamais été aussi libres de s'exprimer. La liberté d'association est pratiquement sans précédent dans l'histoire moderne du pays. Annoncer que la femme tunisienne pourra dans l'avenir épouser un homme musulman, c'est une avancée, c'est un pas en avant, mais ça ne va pas résoudre les problèmes socio-économiques. Ça pourrait être exploité par certaines formations politique pour dire que c'est un gouvernement qui ne se soucie pas des priorités, des besoins pratiquement urgents et il est pratiquement en train d'annoncer des mesures pour, soigner son image.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.